Eh bien, frères et sœurs, le texte du jour, je ne vais pas vous surprendre, c'est la suite de notre série sur l'évangile dans l'évangile de Marc. La dernière fois, c'était déjà moi qui vous avais parlé du passage dans Marc 8. On est allé jusqu'au verset 26, donc nous reprenons aujourd'hui notre récit, toujours en Marc 8, à partir du verset 27. Et je vais donc commencer par vous le lire. Et il est à l'écran dans la même traduction que ce que je vais vous dire si vous voulez le suivre. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je ? » au dire des hommes. Ils lui dirent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres l'un des prophètes. » Et lui leur demandait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répond « Tu es le Christ. » Et il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît. Beaucoup, qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Il tenait ouvertement ce langage. Pierre, le tyrant à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre. Il lui dit « Retire-toi, derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Puis il fit venir la foule avec ses disciples, et il leur dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. » En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Que pourrait donner l'homme qui ait la valeur de sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait, en vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec puissance. Alors, le passage est un peu long, mais vous allez voir qu'il a une cohérence et une progression intéressante. Je vous avais dit la dernière fois que on pouvait découper l'évangile de Marc en 3 parties. Une première partie, un premier volet qui se passe plutôt en Galilée, et où on a vu Jésus accomplir un grand nombre de signes et de miracles. Et puis un deuxième volet où Jésus va être beaucoup plus sur les routes, va parcourir l'ensemble de la Palestine, et où il va révéler vraiment ce que ça signifie être fils de Dieu. Et puis dans un troisième volet, ça se déroulera à Jérusalem avec le récit de la Passion et de la Résurrection. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails, mais la dernière fois nous avons été sur un moment charnière entre le volet 1 et le volet 2. Et donc aujourd'hui nous entrons de plein pied dans ce deuxième volet où nous comprenons un peu mieux ce que signifie pour Jésus être fils de Dieu, être le Messie. Au niveau des lieux, c'est toujours intéressant de voir un peu où le récit se passe. La dernière fois nous étions à Bethsaïda, donc au nord de la mer de Galilée ici. Et là, on nous dit qu'ils sont en marche vers les villes voisines de Césarée de Philippe. Donc Césarée de Philippe, c'est vraiment tout au nord, ici, à peu près 40 km entre les deux. Ils sont en marche, voilà, le long du Jourdain, on peut supposer, parce que c'est là que c'est plus facile de circuler, jusque vers Césarée de Philippe. Donc on change complètement de cadre par rapport à la dernière fois. Et dans cette transition, dans cette marche, le récit d'aujourd'hui, on pourrait dire, nous fait vraiment passer d'un monde à un autre. On part de la conception que le peuple a de Jésus pour arriver finalement à contempler, c'est les derniers versets qu'on a lus, hein, on ne mourra pas avant de voir le règne de Dieu venu avec puissance. On passe d'un monde à un autre. Et comme la dernière fois où on a beaucoup parlé d'aveugle, il va aussi être question de vision. Alors je l'ai résumé comme ça. On pourrait faire 5 petites parties. Comment le monde voit Jésus? On va voir qu'ils ont une conception qui est floue et erronée. Ensuite, comment ses disciples, comment ceux qui le suivent, voient Jésus? Avec la confession de Pierre qui voit Jésus comme le Messie. Puis maintenant, comment Jésus se voit lui-même? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie réellement être le Messie? Notamment passer par la mort. Et puis ensuite, comment Jésus, lui, voit ses disciples? Comment Jésus conçoit le fait de le suivre? Et puis, on terminera à quoi ressemble le monde de ceux qui suivent Jésus, contempler le règne de Dieu. Alors, tout d'abord, comment le monde voit Jésus? Bon, c'est pas grave. On a une conception qui est floue et relativement erronée. Hein. Jésus demande « au dire des hommes ». Mais de quels hommes on parle? Au dire des hommes. La formulation est vraiment générale. Elle est englobante. Et puis, cette impression de généralité, elle est accentuée par le fait que la question, elle est posée par Jésus pendant qu'ils marchent. Ils sont en train de se déplacer d'une région à une autre. Donc, au dire des hommes, on ne peut pas dire que ça s'applique à telle ou telle région. C'est vraiment quelque chose de global. Difficile d'identifier un groupe de personnes en particulier. Et, a priori, difficile aussi de donner une réponse unique. Pour certains, Jésus serait Jean le Baptiste. Pour d'autres, ce serait Élie. Et pour d'autres encore, l'un des prophètes, sans même préciser lequel. Ben, ces réponses vous surprennent peut-être, hein, parce que, bon, on aurait peut-être répondu beaucoup de choses, mais sans doute pas ça, je pense. Mais figurez-vous que Hérode lui-même, il était perplexe. On nous dit dans Luc au chapitre 9 que Hérode le tétrarque, donc le grand chef de la région, alors pas celle-là, mais celle d'à côté, mais peu importe, il a appris tout ce qui se passait, et il était perplexe, car certains disaient que Jean le Baptiste, était ressuscité des morts. D'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un prophète d'autrefois était ressuscité. On retrouve exactement les mêmes termes. Et Hérode dit, mais Jean, je l'ai fait moi-même décapiter. Quel est donc celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Il cherchait à le voir. Donc Jésus intrigue, Jésus interroge. Mais on peut quand même constater une unanimité sur le fait que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Et même plus que ça, qu'il est investi par Dieu. Mais pourquoi donc les Juifs cherchent à identifier Jésus à une personne décédée? C'est le point commun quand même aussi de ces trois personnes. Jean-Baptiste a été exécuté il y a peu de temps, Élie depuis beaucoup plus longtemps, et puis tous les prophètes aussi. On connaît le climat d'attente messianique, l'attente du Messie qui régnait dans la population à cette époque. Le peuple attendait la venue d'un libérateur envoyé par Dieu pour restaurer son peuple. Mais alors pourquoi voir en Jésus le retour d'Élie plutôt que le Messie lui-même, puisqu'ils attendent le Messie? Eh bien, figurez-vous que les disciples ont posé pour nous la question à Jésus quelques versets un peu plus loin que notre passage. Au chapitre 9 de Marc, Pierre, Jacques et Jean interrogent Jésus. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Et Jésus leur dit, « Certes, Élie vient d'abord et rétablit tout. Bien, je vous le déclare, Élie est venu. Et ils lui ont fait tout ce qu'il voulait, selon ce qui est écrit de lui. » Alors, à travers ces paroles, on comprend deux choses. D'abord, que cette idée que c'est Élie qui doit venir, c'est une idée qui vient des scribes. Pourquoi les scribes disent-ils? Et les scribes, ils ne l'ont pas inventé. Hein. Ils s'appuient sur le prophète Malachie. Est-ce que je vous l'ai mis? Oui, qui disait « Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que ne vienne le jour du Seigneur. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, etc. » Mais en fait, oui, Élie devait revenir de manière figurée, imagée, mais cela, en fait, a déjà eu lieu. C'est ce que Jésus dit. Élie est venu. Mais de qui il parle? On a la réponse dans Matthieu 11. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est lui, si vous voulez bien le comprendre, l'Élie qui doit revenir. Jean-Baptiste, en fait, incarne ce retour d'Élie qui était attendu. Et d'ailleurs, on voit aussi des similitudes dans sa manière de s'habiller. On peut faire pas mal de parallèles entre Jean-Baptiste et Élie. Donc, il y a une erreur fondamentale, là. Le retour d'Élie, c'était donc Jean-Baptiste. Et on voit que le peuple, il a compris certaines choses sur Jésus. Il a compris que c'était pas un homme ordinaire, qu'il était envoyé de Dieu. Mais il est induit en erreur par qui? Par les érudits du peuple eux-mêmes, qui ont une compréhension de la parole qui est trop littérale, trop étroite. Et cette conception leur fait voir Jésus non pas comme celui qui est annoncé, mais comme un nouveau prophète ou la réincarnation d'un prophète, donc comme celui qui annonce. On confond le messager et l'objet du message. Alors la question posée par Jésus, elle est tellement générale qu'elle est intemporelle. On peut l'appliquer telle qu'elle aujourd'hui. Au dire des hommes, qui est Jésus ? Alors j'ai fait mes recherches. Je ne suis pas allé interroger des gens au Creusot, mais j'ai trouvé un sondage assez exhaustif qui a été fait sur 3000 personnes en 2015 au Royaume-Uni. Et d'après ce sondage, environ 22 personnes pensent que Jésus est Dieu sous forme humaine. 22%, oui. 22% des personnes pensent que Dieu et que Jésus est Dieu sous forme humaine. Et puis encore 29 personnes qui pensent qu'il est un prophète ou un leader spirituel. Et il y en a seulement 17% qui pensent que Jésus est un être humain normal. Donc l'identité de Jésus continue d'interroger même aujourd'hui et même dans notre société occidentale. Mais on peut dire aussi qu'aujourd'hui encore, on a des responsables d'église qui imposent une lecture littéraliste de la Bible, un peu comme ces scribes, ils répandent des idées, une conception qu'ils ont eux-mêmes de comment les choses doivent se dérouler ou de ce que veulent dire certaines prophéties. Et en faisant ça, ils détournent le peuple de Jésus. Je prends un exemple d'actualité, même s'il est un peu polémique, mais il est courant que dans les églises, on représente l'état moderne d'Israël comme l'objet des prophéties bibliques, par exemple. Et en faisant ça, on nous détourne du focus unique qu'on doit avoir sur Jésus. Paul est pourtant très clair en Romains 11, sur le fait que c'est l'Église dans son ensemble qui est désormais la postérité d'Abraham, mais il y a toute une frange du monde chrétien, et particulièrement chrétien évangélique, qui s'accroche à ces prophéties en disant que ça doit advenir pour l'État d'Israël aujourd'hui. Donc on a des pasteurs, des gens en responsabilité, qui infusent de leur conception littéraliste le peuple de Dieu, et qui de coup les détournent du message profond de l'Évangile. Alors il est temps de passer maintenant, deuxième partie, comment les disciples voient Jésus. Parce que donc Jésus il a posé la question, ok, et maintenant, vous là mes disciples, vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis ? Il les interpelle directement. Je trouve que la question a de quoi mettre un peu mal à l'aise. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un collègue, un ami, un proche, qui vous demande de manière solennelle, droit dans les yeux, ce que vous pensez de lui. Même si on n'a rien à dire de désagréable, généralement on prend le temps de choisir un peu ses mots, on va utiliser des formules pour arrondir les angles, histoire de ne pas blesser, d'arriver à être honnête mais sans vexer la personne. Pierre, ça donne l'impression qu'il ne réfléchit pas une seconde, il répond de manière directe, « Tu es le Christ. Tu es le Christ. » Aucune hésitation. Dans le récit de Matthieu, qui raconte la même histoire, on insiste sur l'importance capitale qu'a cette affirmation de Pierre, et Jésus va s'appuyer sur cette affirmation pour que Pierre s'appelle Pierre, parce qu'au départ il s'appelait Simon, mais à ce moment-là il le rebaptise, il lui fait changer de nom, et il lui donne un nouveau statut en disant que sur cette pierre, il bâtira son église. Donc, Matthieu met vraiment l'accent sur l'importance de cette déclaration. Ici, dans l'évangile de Marc, c'est très sobre, mais on voit quand même à quel point Pierre répond de manière directe, sans hésiter. Et puis, c'est manifestement la bonne réponse, puisque Jésus ne le reprend pas. Jésus ne le reprend pas. Donc, Pierre a vu juste. Ou plutôt, l'Esprit a insufflé à Pierre la bonne réponse. Mais qu'est-ce qu'elle signifie exactement, cette réponse ? Ce mot « Christ », nous, on a l'habitude, on l'emploie régulièrement, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? « Christ », c'est la transcription en français du grec « Christos », et qui est exactement l'équivalent du mot « Meshia » en hébreu, excusez pour la prononciation, et qui signifie « Messie ». Donc en fait, « Christ », Christos, Machia, Messie, tout ça c'est des parfaits synonymes dans différentes langues, et ça signifie « celui qui a reçu l'onction ». On pourrait dire « loin », mais en français ça sonne pas très bien. Donc « celui qui a reçu l'onction ». Et ça veut dire quoi, avoir reçu l'onction ? On avait trois types de personnes qui recevaient l'onction, c'est-à-dire à qui on mettait de l'huile sur le front pour dire qu'ils étaient consacrés dans leur fonction. Ces trois types de personnes, c'était les prêtres, on peut citer l'exemple d'Aaron, c'était les prophètes, on a aussi un passage de Élie qui oint Élisée, son successeur, et puis les rois. Et on a l'exemple de Saül, de David, qui ont été oint, qui ont reçu l'onction par Samuel. Alors je pourrais développer ce point, mais ça va pas être mon sujet aujourd'hui, mais j'attire votre attention sur le fait que Jésus, il est les trois à la fois, prêtre, prophète et roi. Et donc, il a reçu l'onction, c'est celui qui a reçu l'onction vraiment par excellence. Pierre, il a compris que Jésus, il n'est pas quelqu'un qui vient annoncer un autre, mais qu'il est vraiment celui qui a annoncé. Celui qui va accomplir les promesses messianiques. C'est un grand pas de foi. Mais on voit que Jésus, il impose le silence, et puis il s'empresse de donner un enseignement ensuite. Comme si ce que Pierre avait compris n'était pas tout à fait suffisant. Oui, tu as compris que je suis le Messie, mais de quel Messie parles-tu ? Le peuple juif, il était bien dans l'attente de celui qu'annoncent les prophètes. Ils attendaient un roi de la lignée de David. Alors, je crois que j'ai mis le passage, mais il est un peu long, je ne vais pas le lire. Simplement, il est question d'un royaume qui sera inébranlable, d'un trône qui sera stable à jamais affermi, dans 2 Samuel 7, versets 12 à 16. Et un roi qui rétablira la grandeur d'Israël. Alors ça, on aime bien entendre ça quand on fait partie d'un pays, d'un peuple qu'on va retrouver à grandeur. Voilà, vous connaissez le slogan de Trump, Make America Great Again. On veut retrouver la grandeur disparue. Et même, c'est aussi des choses qu'on entend en France et dans beaucoup de pays. Et là, il y a cette promesse dans Ésaïe 61 que le Messie rétablira notamment les dévastations du passé, qu'il rétablira, en somme, qu'il rétablira la grandeur d'Israël. Oui, le passage est un peu coupé. Ésaïe 61, versets 1 à 4. Pareil, je lis pas dans le passage en entier. Mais donc, à travers les générations qui se sont succédées au cours des siècles, le peuple juif s'est fait une image, un imaginaire, de ce que devait être ce libérateur, ce Messie. Et à l'époque de Jésus, on est sous l'oppression romaine, qui est quand même pas très drôle, hein, et beaucoup de gens attendaient que ce Messie les délivre politiquement, matériellement. Alors on ne sait pas si c'est exactement cette idée que Pierre a en tête, mais c'est à peu près évident que Pierre, il a quand même pas tout à fait la bonne conception. J'y reviendrai après. Aujourd'hui encore, combien de personnes, y compris chez les chrétiens, ou peut-être surtout chez les chrétiens, s'en remettent à quelque chose d'une intervention providentielle, que ce soit un homme providentiel qui résoudrait tous les problèmes, ou un événement qui changerait d'un seul coup tout ce qui ne va pas. Combien attendent de telle ou telle instance politique qu'elle établisse finalement un semblant de royaume de Dieu ? On sait bien malheureusement où mènent ces espoirs. Jésus n'est pas venu instaurer un royaume matériel terrestre. Et combien de personnes se tournent vers Jésus aussi ou vers les églises dans l'espoir d'en tirer simplement un bénéfice immédiat, matériel, terrestre ? Ben, je vais aller voir ce qui se passe dans l'église et je vais me tourner vers ce Jésus parce que peut-être que comme ça, je trouverai la guérison, peut-être que comme ça, je deviendrai riche, peut-être que comme ça, ma situation va s'améliorer. Oui, peut-être. Mais si c'est dans cet objectif-là qu'on cherche Jésus, si c'est dans le rétablissement matériel, immédiat, si c'est l'objectif, à mon avis, on passe à côté. Ça peut être une conséquence, oui. Dans sa grâce, Dieu peut bénir, mais ça ne doit pas être la motivation. Et même si cette attitude est sincère, hein, cette attitude, elle repose sur une conception de Dieu et de son royaume qui n'est pas tout à fait celle que nous annonce l'Évangile. Entre reconnaître que Jésus, c'est bien le Messie annoncé, et puis comprendre profondément ce que ça signifie, il y a encore du chemin à parcourir. Et Jésus le sait. Et c'est pour ça, je pense, qu'il donne un avertissement et qu'il demande de ne pas en parler. Ok, vous avez compris. Mais vous n'avez peut-être pas tout compris, et peut-être que ce n'est pas le moment de le crier haut et fort, parce que, vu l'état du cœur de la population, vu les conséquences que ça peut avoir, patientons, le moment viendra. Jésus veut que sa messianité soit comprise sans ambiguïté. Et sa messianité, elle repose sur quoi? Eh bien, c'est ce qu'il va nous expliquer dans l'enseignement qui suit. Donc, comment Jésus conçoit le fait d'être le Messie? Donc ce passage, à partir du verset 31, commence par le verset, oui, il commençait à leur enseigner qu'il fallait que, il faut que. Ces mots montrent qu'il y a une impérieuse nécessité des étapes qui vont suivre. C'est pas une option, c'est pas une éventualité, c'est nécessaire. Conformément à cette onction qu'il a reçue de Dieu, il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les hommes, et notamment par les responsables religieux, qu'il soit mis à mort, et enfin, qu'il ressuscite le troisième jour. Il faut que ces étapes aient lieu. Dans ce programme, toutes les projections que pouvaient se faire ses disciples tombent. Non, désolé, ça ne se passera pas avec facilité, malgré les grands signes que Jésus a été capable d'accomplir au préalable dans les semaines ou les mois qui ont précédé. Non, désolé, Jésus ne fera pas l'unanimité. Il n'emportera pas l'adhésion des responsables religieux qui pourtant sont dans cette attente messianique. Et non, désolé encore, il ne s'imposera pas par la force. Il renoncera à sa puissance jusqu'au point d'être mis à mort. Et à ce moment-là, les disciples ne le savent pas, mais il sera même mis à mort de la manière la plus inique qui soit, avec un procès truqué à côté de deux criminels. Tout ça est inaudible, incompréhensible pour les disciples, et peut-être encore un peu pour nous aujourd'hui et pour le monde. Comment le Fils de Dieu peut passer à travers ces étapes incroyables? Et on voit que Pierre, qui pourtant il vient de reconnaître Jésus comme le Messie, il vient de confesser, tuer le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il réprimande Jésus. « Mais Jésus, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Arrête donc, c'est pas possible !» Notre première idée, c'est souvent de penser que Pierre, il était trop attaché à Jésus pour accepter les horreurs décrites. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je crois que c'est vrai, mais il faut pas sous-estimer à quel point, par ses paroles, cette description que Jésus fait de son ministère, Jésus fait s'écrouler tout un imaginaire, tout un récit, qu'il soit conscient ou inconscient. C'est un imaginaire collectif et que Jésus va nommer explicitement les vues des hommes. À la fin du passage qui est à l'écran. C'est frappant de constater à quel point ce choc fait manquer à Pierre et aux disciples l'information la plus extraordinaire de ces quatre annonces, à savoir que Jésus ressuscitera. Cette vérité, elle est encore plus incroyable que le fait que Jésus puisse souffrir et il semble qu'ils ne l'entendent même pas. Ils ne pourront la comprendre que lorsqu'elle s'accomplira pour de bon. Cette promesse, elle aurait dû les tenir en haleine, elle aurait dû les réconforter au soir de Pâques, ou sur le chemin d'Emmaüs pour les deux disciples qui voyagent après la mort de Jésus. Mais non. Ils en sont restés à la triste réalité terrestre. Celui en qui ils croyaient est mort. Et ironiquement, les seuls à se souvenir de cette parole sont... C'est qui? Qui se souvient que Jésus a dit qu'il ressuscitera? On a la réponse dans Matthieu 27. Mais dans Matthieu 27, je vais vous le lire. Matthieu 27, à partir du verset 62. « Le lendemain, jour qui suit la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate. Seigneur, lui dirent-ils, nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant, après 3 jours, je ressusciterai. Donne donc l'ordre que l'on assure la sécurité du sépulcre au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple qu'il est ressuscité des morts. Les seuls à se rappeler de cette parole, c'est ce sont les adversaires de Jésus. Et ils la prennent au sérieux, parce que, enfin, ils se disent que cette parole, les disciples vont s'en servir, en fait. Alors, il y a un mouvement intéressant. C'est ce que, dans ce passage, il y a un mouvement, littéralement un mouvement intéressant. On nous dit que Pierre tire Jésus à part, au verset 22. Donc, vous voyez, ils sont en train de marcher. On imagine qu'il y a un groupe que forment les disciples, et puis Jésus probablement devant, qui, en tout cas, c'est lui qui mène la route. On nous dit que Pierre tire Jésus à part, et ensuite que Jésus se retourne et voit les disciples. Alors, si j'illustre, ça fait ça. Puisque Jésus se retourne, c'est que Jésus est devant. Mais puisque Jésus parle à Pierre, il a besoin de se retourner pour voir les disciples, ça veut dire que Pierre est passé devant lui. D'ailleurs, Jésus va lui dire « derrière moi ». Il y a donc un mouvement de Pierre qui est sorti de ce groupe des disciples, qui est passé devant Jésus, en le tirant à part, donc en l'écartant des disciples. Et donc on a une, c'est plus Jésus qui mène le convoi, c'est Pierre. En prenant juste les éléments tels qu'ils sont dans le texte. Hein. Donc ce mouvement laisse donc entrevoir que Pierre, il est donc sorti du groupe, pour passer devant Jésus, il a donc outrepassé le maître. Et ce faisant, Jésus nous dit explicitement, il fait le jeu de Satan. Alors je crois qu'on peut en tirer une leçon pour nous, ça. Lorsque je dis à Dieu ce qu'il a à faire, je ne suis pas simplement en train de désobéir. Je fais le jeu de Satan. Et on le voit, là, ça n'arrive pas chez un païen, chez un adversaire de Jésus. Non, ça vient explicitement de quelqu'un qui est tout proche, de quelqu'un qui vient de confesser que Jésus était le Messie. Il a hérité d'un certain nombre de clés qui lui permettent de comprendre qui est Jésus, mais il reste prisonnier des conceptions humaines et de schémas de pensée hérités d'une longue tradition et qui ne sont pas celles de Dieu. Alors restons prudents, mes amis, lorsque nous prêtons à Dieu des caractères, des intentions, des projets, lorsque ceux-ci ne sont pas explicitement donnés par la parole. Un certain nombre de choses nous sont données à travers l'Écriture. Hein. Nous avons des certitudes de foi qu'il est bon d'affirmer et de rappeler. Nous pouvons dire avec certitude, par exemple, que le Seigneur est fidèle, qu'il nous écoute, qu'il nous accompagne. Nous pouvons nous appuyer sur le fait que si nous nous tournons vers lui avec un cœur repentant, il nous pardonne effectivement. De fait, nous sommes déjà pardonnés. Mais le fait d'avoir accepté Jésus comme notre Sauveur ne nous met pas à l'abri de nous laisser embarquer dans de fausses idées, bien au contraire. Attention à une conviction qui nous ferait sortir du groupe des disciples, ce groupe des disciples qui est aujourd'hui l'Église, pour affirmer haut et fort ce que nous avons compris de Jésus et dire à Dieu d'une manière ou d'une autre ce qu'il a à faire. Je vais vous donner quelques exemples pour essayer de rendre ça concret. Pierre, il disait, en somme, « Non, Jésus, tu ne peux pas mourir puisque tu es fils de Dieu, c'est pas possible. Tu es le Messie annoncé, tu ne peux pas mourir. » Il a une certaine conception de ce qu'est le Fils de Dieu, qui l'invite à dire à Jésus ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Un exemple, ça pourrait être « Dieu va forcément me guérir, parce qu'il ne veut pas qu'on souffre. Dieu va bénir ce projet d'Église, puisque c'est pour son Église. Inutile de demander pardon, c'est pas vraiment ma faute. Ne parlons pas de ce qui fâche, Dieu n'aime pas les conflits. » Ou « Dieu va absolument m'accorder ceci puisqu'il sait que j'en ai besoin. » Inutile d'aller visiter un tel ou un tel. Dieu enverra bien quelqu'un, il sait que je n'ai pas le temps. Dieu va nous donner de l'argent puisqu'il faut bien qu'on paye le pasteur. Il faut que je fasse les choses parfaitement puisque Dieu est parfait. À chaque fois, dans ces exemples, se niche une conception qu'on peut avoir sur Dieu, ses projets, mais une conception qu'on s'est construite en fait, qui n'est pas du tout celle que Dieu nous donne clairement dans sa parole. Dieu va bénir ce projet puisque c'est pour son Église. Bien sûr que Dieu veut bénir son Église, mais peut-être pas de la manière dont on a prévu nous. Bien sûr que Dieu nous veut en bonne santé, mais parfois on a besoin de passer par des difficultés, des guérisons, parfois ce n'est pas le moment, parfois nous ne sommes pas disposés à recevoir sa guérison. Parfois, nous avons besoin aussi de nous opposer, de dire notre désaccord, dans la sincérité, dans la bienveillance, mais pour que Dieu aussi puisse, dans ces différences, faire émerger un consensus qui viendra de lui. Il sait bien que j'ai besoin de cette chose, donc il va me l'accorder, mais pas toujours. C'est moi qui considère que j'en ai besoin. Dans sa vision à lui, ce n'est peut-être pas de ça dont j'ai le plus besoin dans ce moment-là. Etc., etc. Et vous voulez un exemple encore plus parlant de fausse conception qui est probablement une des plus répandues? Eh bien, c'est le fait que se mettre à sa suite nous évitera les ennuis et les difficultés. Et c'est exactement ce dont Jésus va parler dans la suite. J'en arrive donc à mon quatrième point. Je vous rassure, le cinquième sera très court. Il fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix, et alors qu'il me suive. » Mais quelle exigence ! Renoncer à soi-même, se renier, accepter de souffrir, ça paraît pas un programme très engageant, hein. Puis quoi encore ? C'est pourtant bien le chemin initié par Jésus, et Paul nous le rappelle explicitement dans l'épître aux Philippiens, donc je lis Philippiens 2, à partir du verset 5, Paul nous dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur et en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort et même la mort sur une croix. Jésus a initié le chemin et nous sommes appelés à le suivre. Mais ne nous arrêtons pas là. Vous connaissez aussi sans doute ce verset du prophète Jérémie, que je n'ai pas mis sur les diapos, mais que je vais vous lire. « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça c'est Jérémie 29, verset 11. Je vous le relis. « Je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, ce n'est pas pour nous priver de quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est pour nous libérer. La suite de notre passage nous dit « En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Il y a un paradoxe incroyable là-dedans. Alors, faudrait-il que je renonce à ce que je suis ? Nous libérer de l'attachement à ce qui fait notre vie aux yeux du monde, aux yeux des hommes. Nous libérer de ce que nous avons fini par intégrer comme étant notre identité, en bien ou en mal. C'est ça, renoncer, se renier soi-même. Peut-être qu'on vous a toujours considéré comme un raté ou un bon à rien. Peut-être qu'on vous a toujours laissé croire que vous étiez un accident. On en a parlé un soir il n'y a pas longtemps. Peut-être que les souffrances ou les violences que vous avez subies ont fini par vous convaincre que vous étiez une victime. Et consciemment ou non, tout cela fait partie de votre identité. Mais peut-être aussi vous définissez-vous par votre nationalité ou bien par un trait de caractère. Moi, je suis quelqu'un qui est comme ça. J'ai toujours été comme ça. Ou peut-être encore, vous avez fondé votre identité sur vos réussites ou vos succès. Vous êtes un travailleur, vous êtes un méritant. Et c'est comme cela que les autres vous voient, et même ils vous envient pour ça. Eh bien, toutes ces conceptions que nous avons de nous-mêmes, qu'elles soient positives ou négatives, toutes ces images que les autres nous renvoient, Jésus nous demande d'y renoncer. De ne pas chercher à la sauvegarder, ne serait-ce qu'un petit peu. Ce n'est pas facile, même quand ces conceptions nous pourrissent consciemment la vie. Et je crois qu'il est tout aussi dur de se défaire de l'idée qu'on est un gagnant, si vous m'autorisez ces caricatures, que de l'idée qu'on est un perdant. Et je crois qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais dans tous les cas, c'est très difficile de se défaire de l'image que l'on s'est construite ou que les autres nous ont construite. On pourrait dire que c'est s'accrocher à son vieil homme. Et s'accrocher à son vieil homme, et Jésus nous dit, c'est courir à sa perte, c'est faire obstacle à l'action rédemptrice de Dieu dans notre vie. Notez bien que Jésus ne nous demande pas de faire des efforts pour changer. Il ne nous demande pas d'essayer de changer cette identité par nous-mêmes. Il nous demande simplement de renoncer à un état, de renoncer au fait de s'accrocher et de laisser sa grâce faire son œuvre. Alors, pour prendre une image, Jésus ne nous demande pas de refaire la décoration intérieure de notre vieil appartement. C'est un peu vieillot, il y aurait papier peint à rafraîchir, mais finalement on y est habitué, on l'aime bien ce papier peint, puis ce fauteuil il est tout décrépit, mais on est bien assis dedans, et puis il nous a été offert, on a envie de le garder. Oui, ben non. Il ne nous demande pas de tout changer, mais il nous demande de lui laisser les clés de l'appartement pour qu'il vienne lui-même refaire la tapisserie. Et même, pourquoi pas, carrément déplacer les cloisons, s'il y en a besoin. Et puis, tant qu'à faire, revoir aussi l'ameublement. Est-ce qu'on est prêt à lui laisser les clés pour que lui-même fasse tout à l'intérieur? Est-ce qu'on est prêt à faire le deuil du vieux cadre hérité des grands-parents qui fait partie de notre univers et tout l'héritage qu'il représente? Si on y est prêt, on sera peut-être surpris de découvrir ce qu'il y avait derrière ce cadre. Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il vide 2 ou 3 armoires? Qu'il les jette même, tant qu'à faire? Celle qui contient les trophées qui flattent notre orgueil? Tous ces trophées qu'on a accumulés au cours des années, nous disant qu'on est quelqu'un de bien, qui a réussi. Mais aussi l'armoire qui renferme nos secrets les plus inavouables. Nos cauchemars, nos malédictions qui nous poursuivent et qui nous enferment. Après ce grand ménage, ce réaménagement, le souvenir restera, mais tout ça n'encombrera plus notre vie et ne sera plus un obstacle pour rencontrer véritablement Jésus. Notre identité véritable, cette nouvelle déco intérieure, c'est en lui que nous la trouvons et c'est lui qui l'a construit. Ce n'est pas le regard de votre reflet dans le miroir qui vous définit, ce n'est pas le regard de vos parents, ce n'est pas le regard de vos enfants, ce n'est pas celui de vos amis ou celui de vos collègues, c'est dans le regard d'amour de Jésus. Nous sommes tous ses enfants bien-aimés. Qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera, nous dit Jésus. Tout abandonner pour Jésus, c'est trouver la vie. Lui rester fidèle, c'est entrer dans une promesse d'éternité. On dit souvent, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et au motif de ça, on s'accroche à nos certitudes, on s'accroche à ce qui nous rassure, même si on est conscient que ce n'est pas l'idéal. Ça résume peut-être l'attitude de Pierre d'ailleurs. Hein. Non Jésus, tu ne peux pas mourir, ce n'est pas possible. Pas toi. Et pourtant, quand on se focalise sur ce qu'on perd, on s'interdit précisément de voir ce qu'on gagne. Rappelez-vous, Pierre, a priori, il est passé complètement à côté de l'idée que Jésus va ressusciter. Il nous faut toute la puissance de l'Esprit de Dieu pour réaliser pleinement, comme Paul, que Christ est ma vie et mourir représente un gain. Est-ce que, frères et sœurs, on peut dire ça aujourd'hui, que Christ, c'est notre vie et que mourir, c'est un gain? Alors, on peut l'entendre sur le plan physique, matériel, parce qu'on va mourir et on passera l'éternité avec Jésus, mais l'éternité, elle commence aujourd'hui, hein, c'est mourir à soi-même, je vous rappelle. Acceptez que Jésus refasse la déco de votre appartement intérieur, et quand je dis la déco, je devrais dire refasse l'appartement en entier. Et alors, nous entrons donc dans une nouvelle réalité, et je me rends compte que je suis très long, donc je vais accélérer. On entre dans un nouveau monde, et Jésus nous promet, en vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec puissance. Encore une fois, il est facile de se focaliser sur ce qu'on perd, sur ce qu'on laisse derrière, parce que c'est visible, c'est concret, on sait bien appréhender de quoi il s'agit, une bonne situation, un privilège, des habitudes. Et si on change ça, le monde dira, on ne sait pas profiter de la vie, il y aura le plus grand mal à comprendre le changement qui s'est opéré en nous, qui nous habite, et qui ne nous laisse pourtant absolument aucun regret. Paul, ou plutôt Saul, comme il s'appelait à ce moment-là, c'était un homme puissant, c'était un homme influent, c'était un homme protégé par les autorités, Mais lorsqu'il s'est mis à la suite de Christ, il est devenu un vagabond. Il a été persécuté, il a été emprisonné, il a été flagellé. Et finalement, il a été condamné à mort. Pourtant, dans toutes ces lettres témoignent de la joie profonde qu'il habite et de l'amour qu'il est devenu capable de déployer pour les premières communautés chrétiennes à travers sa relation à Christ. Il est entré dans le règne de Dieu et il voit la puissance de Dieu se déployer dans quantité de situations que le Seigneur lui a permis de vivre. Alors nous ne sommes pas Paul, nous ne sommes pas Pierre, mais nous sommes quand même, frères et sœurs, appelés à vivre cela. À passer d'une image de Jésus qui est floue et imprécise. Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un leader charismatique? Nous sommes appelés, comme Pierre, à reconnaître que c'est vraiment le Messie annoncé par tout l'Ancien Testament, que toute la Bible ne parle que de lui, qu'il est celui qui a reçu l'onction. Et avec humilité et patience, par la parole, par la prière et aussi la vie d'Église, nous sommes invités à laisser tomber nos fausses conceptions de Jésus. Et elles sont nombreuses, hein. Et puis on est invité aussi à laisser tomber nos fausses conceptions de nous-mêmes. Laissons Jésus se révéler à nous petit à petit et laissons-le redéfinir notre identité. Enlever ces vieux papiers peints qui ont jauni et laisser entrer sa lumière, non pas au standard du monde, mais tel que Dieu l'envisageait. Notre identité, il la connaît depuis toute éternité. Et nous serons ainsi rendus petit à petit semblables à Christ. Et nous serons alors à même, comme Paul, de voir se déployer son royaume dans nos vies et là où il nous placera, en attendant le jour où le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges, comme il l'a promis. Amen.